Chapitre 35. Serge Amandier avait décidé de prendre son véhicule personnel plutôt qu'une voiture de fonction dont il aurait été obligé de notifier l'emprunt dans le registre. Il avait équipé sa Peugeot d'un micro et d'une radio branchée sur la fréquence de la police, à l'évidence sans la moindre autorisation. Il klaxonnait à tout va, coincé dans les bouchons de fin de journée, boulevard Raspail. Assis à ses côtés, Charcot angoissait. Son collègue était très nerveux, avait ajouté 3 verres de vin à son compteur, et surtout, il n'avait averti personne de leur virée. « Je te sens tendu, petit !» lâcha le flic lorsqu'enfin la voix se dégagea. « T'es certainement en train de te dire qu'on ne respecte pas le protocole. Mais t'as vu où ça a amené, Titi, le protocole ?» Il se racla la gorge et cracha par la fenêtre. « Moi, j'emmerde le protocole. C'est toujours comme ça que j'ai exercé. Avant, on se posait pas toutes ces questions bureaucratiques. Il n'y avait pas les bœufs carottes qui déboulaient dès qu'un suspect avait la gueule un peu en vrac. On fonçait, c'est tout. Et ça marchait diablement bien. Alors t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Je préfère te débarquer ici plutôt que tu me chies dans les bottes. » Franck serra les mâchoires. J'ai l'impression de pas avoir le choix. C'est ça, t'inquiète petit, on racontera que je t'ai forcé à venir. T'es un bleu, t'as pas osé refuser. Et puis on va juste allonger quelques baffes à un mec, c'est pas fort à la mot non plus. Il glissa une cassette dans l'autoradio et augmenta le son à la première chanson de Johnny Hallyday, histoire de mettre un terme à leur conversation. Après quoi, il s'alluma une cigarette. Charcot scruta discrètement les larges mains de son collègue. De véritables battoirs. Il avait dû en distribuer des claques. Le jeune inspecteur ne savait plus quoi penser. On lui avait appris les règles à l'école, mais ici, personne ne les respectait. Il détourna la tête vers les lumières de la ville, tandis que ses vêtements s'imprégnaient encore et encore de cette satanée fumée. Il puait la clope. Comment allait-il tenir 40 ans comme ça? Comment cette journée allait-elle se terminer? D'après leurs informations, Félix Coty avait déménagé en banlieue en 1988. Il habitait désormais au bord de la Nationale 20, quelque part entre Longjumeau et la ville du Bois, à 20 de kilomètres au sud de Paris. Ils mirent plus de 2 heures pour faire le chemin. La Nationale 20, un enfer. Franck observait les façades noires de pollution le long de la route, les boutiques de réparation en tout genre encastrées entre les masures, les casses automobiles, les dépotoirs à ciel ouvert, où s'entassaient machines à laver rouillées, réfrigérateurs et autres appareils électroménagers. Et devant lui, derrière lui, dans les deux sens, cet interminable balai de moteurs bruyants et brûlants, tous ces véhicules de travailleurs anonymes, cul à cul, dont les pots d'échappement crachaient une fumée grise. Charcot aurait été incapable de vivre dans l'une de ces maisons où il suffisait de sortir de chez soi et d'avancer d'un pas pour se faire couper en deux. On a passé Longjumeau, on est dans les numéros 300, ça doit être l'une de ces bicoques. La voix de Serge l'arracha à ses pensées. Ce dernier pointait du doigt une vieille baraque sur la droite et son portail en métal, tellement tagué qu'on n'en voyait plus la couleur d'origine. Il était impossible de se garer, le trottoir ne mesurait même pas 1 mètre. Les façades faisaient front dressé en une forteresse. Le flic trouva une place plus loin sur le parking crasseux d'un garagiste. Il était près de 19h30, l'établissement était fermé, mais un type surgit de nulle part leur demanda de dégager de là. Amandier brandit sa carte devant son nez. « Boucle-la, du con !» Ils longèrent ensuite la route à pied, les phares jaunes des voitures en plein visage. Franck sentait le souffle des véhicules lui frôler l'épaule, entendait les pétarades des motos, mais ça l'angoissait. Qu'est-ce qu'il raconterait à Suzanne de ses journées quand ils habiteraient à deux? Que ça avait été au bureau? Devrait-il lui mentir en permanence? Ils repérèrent le bon numéro, mais tous les volets de la maison étaient baissés, rez-de-chaussée comme étage. Et surtout, la porte d'entrée était condamnée par une grille scellée à la façade. « Merde, on s'est pas planté pourtant, » grogna Serge. « Son adresse est peut-être plus à jour. » Le portail était trop haut pour le franchir et verrouiller. « On va essayer de voir par l'arrière. » Ils marchèrent sur une 50aine de mètres, jusqu'à une rue qui faisait la jonction avec une route parallèle à la N20. Ils la remontèrent, constatèrent que tous les logements qui donnaient sur la Nationale disposaient de jardins étroits mais profonds, puis finirent par arriver à destination. Des lampadaires éclairaient une grille cadenassée. Serge passa par le jardin voisin, plus accessible, et grimpa sur un amas de terre qui lui permit de sauter sans mal de l'autre côté. Charcot suivit sans broncher, mais il détestait la tournure que prenaient les événements. Il atterrit sur des bâches en plastique bleu où stagnaient des flaques d'eau saumâtre. Aucune trace d'un véhicule dans l'allée. Plus loin, des palettes, des tuiles en grande quantité, des cageots de bois enchevêtrés, de la ferraille, des pneus empilés, des appareils électriques désossés. Une vraie décharge. Alors qu'il se rapprochait, il tapa sur l'épaule de son collègue et désigna 2 chats crevés dans une brouette. Amandier s'approcha et plissa le nez. Les animaux étaient rigides, pattes raides et recouverts de poudre blanche. De la chaux vive qui allait accélérer la décomposition et limiter les odeurs. Leur mort était récente. Quel taré! Au moins, on s'est pas trompé d'adresse. Charcot sentit la tension monter d'un cran. Ils se frayèrent un chemin dans ce chaos et atteignirent enfin la maison, un bloc de béton gris et humide. De là non plus, aucune lumière ne filtrait. Sur la marche fissurée menant à l'entrée, une paire de bottes en caoutchouc, des gants en maille d'acier, ainsi que ce qui ressemblait à une longue pince, de celle qu'on utilise pour ramasser les ordures sans se baisser. La porte en bois n'était pas condamnée. Elle n'avait pas l'air solide et comportait une partie vitrée rendue opaque par la crasse. Serge cogna dessus et il eut l'impression qu'elle était sur le point de céder. Pas de réponse. Pas un bruit. Y a personne. Tant mieux, répliqua Franck avec soulagement. On devrait attendre qu'ils reviennent et appeler les renforts. Y a quand même des bêtes mortes, là. Serge plaqua son coude sur la vitre, poussa d'un coup sec. Elle se décolla d'un bloc et chuta sur quelque chose de mou, sans se briser. 10 secondes plus tard, il était à l'intérieur, arme brandie, dans l'obscurité.